Vous écoutez RTL.
RTL.
Des capteurs qui vont mesurer des paramètres biologiques, zootechniques ou comportementaux sur les animaux.
Écoute Marguerite, je vais te jurer quelque chose. Tu peux me croire, je te jure que jamais plus je mangerai du veau.
La curiosité est un vilain défaut.
Transformer ces données provenant des capteurs et la restituer sous forme d'alerte ou d'information à l'éleveur.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Loin de la vache de Fernandel, on vous raconte comment travaillent les agriculteurs aujourd'hui. Ils sont de plus en plus connectés. C'est à l'occasion du salon qui se tient jusqu'au 5 mars à Paris. Notre invité, le journaliste scientifique Vincent Tardieu, est en première ligne sur ces questions. D'abord, pour peut-être une raison un peu familiale, vous venez d'une famille d'agriculteurs ?
Oui, par mon père, effectivement, dans la Drôme. Mais ils sont très innovants, mes familiers agriculteurs, mais ils sont très innovants dans le rapport, je dirais, à la terre, sur leur parcours agricole, mais sans grosse technologie, parce que de toute façon, quand on est paysan dans la Drôme, pour des raisons de surface, pour des raisons de marché, on n'est pas très intensif. Donc,
et est-ce que il y avait un blocage, peut-être pas dans votre environnement proche, mais chez les agriculteurs, justement, face à cette idée d'utiliser des outils numériques, de se lancer dans l'agriculture connectée.
Oui. Mais moi, j'en parlerai pas au passé. Je pense que ce blocage existe toujours. Oui, ouais. Bien sûr. Pas parce que on a affaire à une génération vieillissante. Encore que on a quand même ce problème dans le monde agricole. Il y a des problèmes de relève et de transmission, mais surtout parce que ces outils, finalement, d'abord, ils sont extrêmement divers, et puis ils sont complexes. Ils sont encore en phase prototypique. Donc un peu, on a l'impression des fois que les agriculteurs sont un peu des cobayes d'agroéquipementiers, il faut dire les choses quand même.
Ça veut dire que parfois ça ne marche pas ?
C'est pas que ça ne marche pas forcément, c'est qu'on teste encore des solutions. Vous savez, la plupart de ces outils, ils ont en gros 5 ans, parfois 10. Mais ils déferlent dans les cours des fermes depuis 5 ans.
Ça coûte cher peut-être aussi ce matériel ?
Ah, c'est clair. En gros, par exemple, un robot de traite, c'est entre 110 000 et 150 000 euros l'unité.
Faut nous dire ce que c'est, un robot de traite.
Un robot de traite, c'est un robot qui va permettre à la vache d'aller se faire traire toute seule, sans qu'on lui dise d'aller se faire traire. Voilà. Elle a envie, elle y va.
Faut être poli avec les
voilà,
avec les vaches.
Absolument. Elle a envie, elle y va. Donc, quelque part, ça permet d'avoir, on le constate, une traite plus fréquente, une production de lait qui est plus importante. Et en fait, ce n'est pas tant le fait la production de lait plus importante qu'elle multiplie le nombre de traites, que plutôt est associé à ce robot le fait qu'on lui donne des compléments alimentaires pour la simple et bonne raison, c'est que physiquement, si vous avez un robot de trait dans une étable, vous aurez du mal à avoir le temps pour la vache de faire un aller-retour entre la prairie et le robot de trait. Donc en réalité, ces robots de trait, ça veut dire qu'ils sont quasiment tout le temps dans des étables. Et on a un peu perdu, je ne veux pas caricaturer, il y a encore des gens, des éleveurs qui sont avec robot de trait plus pâturage, mais la part du pâturage se réduit, voire s'annule, au profit d'apports d'aliments.
Ah, mais donc des vaches qui ne se nourrissent pas naturellement ?
Non, de vaches qui ne se nourrissent pas naturellement, en tout cas en majorité pour les systèmes avec robots de traite, dont le fait, effectivement, on en produit davantage, mais c'est plus le même système. Et surtout, ça coûte beaucoup plus cher.
Et c'est plus le même lait ?
Et c'est plus le même
lait. Est-ce qu'il est moins bon ?
Moi, je serais incapable de vous.
Question.
Non, alors ça, franchement, je serais incapable. Il y a d'abord des normes, ce qu'on appelle sanitaires, voire organoleptiques, sur les qualités des laits. Il se trouve que les prix, en général, sont un peu plus bas, effectivement. Mais surtout, les images ne sont pas les mêmes. Si vous mettiez en avant, je pense, les produits par vache avec robot traite, je ne suis pas sûr qu'auprès des consommateurs, ça soit très, très en vogue et très attractif.
On aurait moins envie de les acheter. Vous racontez,
En revanche, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que le robot traite, ça a beaucoup d'avantages pour l'agriculteur et pour l'éleveur. C'est quand même supprimer la traite deux fois par jour, ce qui est extrêmement contraignant. Et vous savez, une carrière d'un éleveur qui a trait toute sa vie, c'est très souvent des problèmes de dos, des problèmes de muscles, de squelettiques. Et ça fait partie des maladies professionnelles très, très fréquentes.
Ouais, on est au cœur de la problématique de votre livre, Vincent Tardieu, Agriculture connectée, arnaque ou remède. C'est publié chez chez Belin. Alors il y a plein d'exemples hein, comme celui-là de ces outils connectés. Par exemple, il y a des puces dans les animaux. Alors moi je suis un peu tombé de la chaise en apprenant ça. Ça sert à les géolocaliser, c'est ça?
Oui, ça sert à la fois à les géolocaliser. Typiquement, ben, on a la Commission européenne par exemple l'a imposé pour les brebis. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'éleveurs de brebis et de moutons qui s'y sont opposés en France en particulier. Mais ça sert aussi, par exemple, pour une vache, quand elle a une puce à l'oreille, elle s'approche d'un portique, eh bien, pour pas qu'il y ait chaque fois quelqu'un pour ouvrir le portique, eh bien, automatiquement, la puce permet d'ouvrir le portique. Ou elle s'approche du robot traite, elle va se faire traire, et on sait que c'est Marguerite numéro 307 qui est venue se faire traire, et pas sa compagne et sa cousine.
Ces puces sur les animaux, elles sont placées comment? Elles sont sous
l'oreille.
La peau?
Oui, sous-cutanée, ou parfois, vous l'avez dans le collier.
Qui la met? C'est un vétérinaire?
Oui.
C'est l'agriculteur? Ça fait mal?
Non, ça ne fait pas particulièrement mal. Et en général, après, il y a une discussion sur quel est l'effet. Hein, parce que s'il y a, après tout, il y a une émission d'ondes. Et ça, franchement, il y a assez peu de données sur le sujet. Mais s'il n'y avait qu'une puce, le problème ou la question, en tout cas, c'est que ces animaux sont bardés de capteurs. Il y a la puce pour l'identification, on vient d'en parler, la géolocalisation. Mais aussi, par exemple, il y a des sondes vaginales pour savoir si elle est en chaleur ou pas, pour savoir exactement si on va faire venir le taureau, mais il y a aussi si elle va mettre bas. Donc,
ça, c'est pas en permanence, on les utilise quand on en a besoin, ou elles ont ces sondes vaginales en permanence, les vaches?
Ça dépend, non, c'est pas en permanence, mais c'est quand même une bonne partie de leur vie. C'est également des capteurs pour mesurer leurs activités, savoir si elles boitent par exemple, et l'activité, on va pouvoir en déduire beaucoup de choses, un comportement anormal, un problème alimentaire, bref. Honnêtement, on est en train de transformer nos vaches en voitures de luxe, quoi, qui sont bardées de capteurs.
Et alors, on ne sait pas exactement comment elles le vivent, forcément. Est-ce que c'est mieux ou moins bien traité?
Je le raconte. Franchement, il y a les deux sons de cloche, et moi, je ne tranche pas, parce que moi, là, je suis journaliste comme vous, et je suis là pour poser des questions, des paradoxes. Et en fait, d'un côté, il y a certains zootechniciens qui disent, mais en fait, on est en train de transformer, d'objetiser quelque part l'animal, et de la transformer en un objet au milieu d'un système extrêmement industrialisé. Et puis, il y a des éleveurs qui avaient ces robots traites et ces capteurs et qui m'ont dit, ben non, parce qu'en réalité, on est au contraire beaucoup plus attentionné par rapport à la vache, parce que ces capteurs nous permettent de voir des choses que nous, à l'œil nu, on ne voit pas. Et en plus, 24 heures sur 24, nous, on dort. Et les capteurs, ils continuent à bosser et nous renseigner sur l'état de santé de l'animal. Et finalement, nous, on peut être beaucoup plus réactif et plus à l'écoute de l'animal et de sa santé. Donc il y a un peu les deux points de vue.
C'est une agriculture de précision qui s'implante de plus en plus aujourd'hui, et c'est ce que l'on découvre sur RTL. À tout de suite dans La Curiosité.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité de découvrir la révolution que vivent les agriculteurs français à l'occasion du salon qui se tient jusqu'au 5 mars, porte de Versailles, à Paris. Et c'est le journaliste scientifique Vincent Tardieu qui nous fait découvrir ces nouveaux outils connectés, ce nouveau monde, hein, on peut le dire, parce que nous, on découvre vraiment comment vivent et travaillent maintenant les agriculteurs. On parlait d'élevage, on va voir maintenant comment travaillent certains producteurs. Et on voit que l'agriculture connectée est bien plus précise dans les champs, de telle sorte que les champs n'ont plus aucun secret pour les agriculteurs.
Je ne suis pas sûr qu'elles aient plus aucun secret, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a des systèmes de géolocalisation sur les tracteurs qui nous viennent parfois de satellites, hein, avec des données, ben, on le connaît par le GPS, demain Galiléo, européen, Cocorico, et puis...
Mais quel genre de données dans un champ? Qu'est-ce qu'on peut attendre comme données quand on est agriculteur?
Si vous voulez, toute culture, toute plante, elle va émettre un rayonnement. Ce rayonnement, en infrarouge, il va être capté en fait par le satellite, et le satellite va restituer une information en fait sur son niveau de chlorophylle, et la chlorophylle nous dit quel est le besoin d'engrais azoté de la plante en fonction de ce niveau de chlorophylle.
Donc on va en mettre plus ou moins.
Exactement.
Dans telle ou telle partie
ça,
du champ.
Ça, c'est très intéressant, parce que si vous voulez, on va pouvoir, en fait, on réfléchit plus du tout l'agriculture par champ ou par parcelle. On va le réfléchir centimètre par centimètre. On dit on va vers une agriculture chirurgicale. C'est pas inintéressant comme notion. Après, on me dit, mais est-ce que... Alors, c'est vachement plus écolo. Alors, moi, je dis, attention, les gars, la réalité, c'est quoi? C'est qu'en termes de volume, sur une année, la quantité d'engrais, elle n'a pas vraiment bougé. Mais elle a été apportée au bon moment, à la bonne quantité et au bon endroit. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup moins qui partent, en fait, dans les nappes, à côté, etc. Donc, on en a, les volumes n'ont pas changé, mais l'optimisation du produit est plus importante, ce qui fait qu'il y a moins de pertes dans l'environnement.
La véritable motivation des agriculteurs, même si on ne peut pas évidemment faire un cas général, c'est quoi? C'est justement économiser son engrais, avoir une agriculture plus raisonnable, ou bien c'est la productivité en vrai, c'est produire plus, mieux et gagner plus d'argent. On peut le comprendre aussi.
Les deux, ma capitaine.
J'aime quand vous me parlez comme ça.
Voilà.
Moi, j'ai arrêté, hein, parce que c'était insupportable, hein, si je l'appelais ma capitaine tous les soirs.
Les deux, c'est-à-dire qu'à la fois, je ne dirais pas quel est le point de départ. Bon, souvent, on est en pleine crise, tout le monde le sait, hein, au niveau agricole, c'est clair. Donc, il y a besoin de réduire les coûts de production, c'est évident. Donc, réduire l'utilisation des engrais et demain peut-être des pesticides, mais aussi de l'eau par exemple, mais aussi du fioul sur les outils, les engins, ça va avoir un intérêt évidemment sur les revenus des agriculteurs. Et si cela conduit à être plus précis et donc plus chirurgical sur l'usage des pesticides ou des engrais chimiques, ben on est gagnant.
Oui, mais est-ce qu'on n'est pas dans la vieille logique qui consiste à toujours en demander plus au sol? Moi, j'ai l'impression que le bio est en train de gagner des parts de marché. Alors, certes, ça partait de bas, mais ça répond à une demande des consommateurs. Et est-ce que finalement, là, tous ces outils connectés dont vous nous parlez, ils sont pas dans la continuité d'une agriculture intensive dont les consommateurs veulent moins?
Je vous laisse la responsabilité de cette analyse. Que je suis pas loin de partager, mais voilà, je veux pas fermer le débat avant de l'ouvrir. Pourquoi j'ai fait ce bouquin, franchement, c'est que moi je suis les questions agricoles depuis 30 ans, et je voyais monter dans les fermes ces outils, et il y a aucune expertise indépendante par de la recherche indépendante des constructeurs.
Avant de les utiliser,
non,
c'est-à-dire qu'on les teste pas avant.
Mais même dans les chambres d'agriculture, il y a pas, si vous voulez, les agriculteurs, ils sont pas épaulés sur qu'est-ce que c'est vraiment leurs besoins, toi dans ta ferme, et quels sont vraiment les matériels qui sont les plus adaptés à tes besoins? Raisonner dans ce sens, c'est de la pure logique.
Mais surtout, ce sont des investissements très lourds.
Mais bien sûr, je l'ai dit, je vous ai donné quelques... à part des capteurs, en gros, on est entre le 1 000 000 euros à le 10 000, voire le 100 000 euros. Hein. Donc, on est en pleine crise, je le répète pas, tout le monde le sait. Donc, c'est clair que si vous n'avez que comme conseil uniquement les équipementiers, eh bien, vous allez avoir ce problème-là. Et le problème de savoir si cette agriculture, par exemple, est dimensionnée pour de l'agriculture écologique, quelque part, on pourrait se dire, mais absolument, parce que plus je suis précis, plus quand je n'utilise pas de façon préventive des produits chimiques, ben, j'ai besoin d'être super précis. Sauf que ces outils, ils coûtent cher, on l'a dit, ils n'ont pas été conçus pour ces itinéraires, pour des petites surfaces, parce qu'il faut, pour les rentabiliser, des grandes surfaces. Et surtout, si vous voulez, on rentre dans un système de dépendance pour l'agriculteur auprès de tas de chaînes d'équipement et de spécialistes qui fait qu'on perd en autonomie.
C'est-à-dire qu'on est passé de la dépendance à la chimie, parce que c'était quand même un peu ça, le destin des agriculteurs depuis quelques décennies.
Oui, je pense qu'on passe d'une
nouvelle dépendance.
Oui, pour moi, je crois qu'on risque, si ce n'est pas raisonné, si ce n'est pas accompagné de façon objective et indépendante des constructeurs, on risque de substituer les aides chimiques à les béquilles chimiques à des béquilles électroniques. Si c'est ça, on n'aura rien gagné et les agriculteurs ne l'auront pas gagné et on risque d'avoir à nouveau des surendettements très rapidement.
Vincent Tardieu, il y a un autre outil dont vous parlez dans votre livre Agriculture connectée, arnaque ou remède, publié chez Belin, c'est l'autoguidage par GPS. Ça fonctionne comment?
Alors, l'autoguidage par GPS, bon, c'est donc lié à la géolocalisation, c'est-à-dire qu'en fait, on met un système dans son moteur, de tracteur, de moissonneuse, batteuse et autres, et qui permet d'être géolocalisé et de pouvoir suivre exactement un itinéraire qu'on a implanté dans la carte de navigation de l'engin, et qui permet de le suivre et d'être exactement sur le sillon d'intervention tout le long, non seulement de la saison, mais au fil des ans. Et ça, ça a beaucoup d'intérêt. Je vous donne un exemple. Si vous allez planter du blé, par exemple, vous allez y revenir quelques mois après, le blé est déjà haut, vous ne voyez plus où est le sillon, vous allez pouvoir apporter l'engrais exactement au bon endroit et vous n'allez pas nourrir les mauvaises herbes à côté, au passage. Et en plus, au fil des ans, vous allez pouvoir passer exactement au même endroit avec vos roues de tracteur qui sont de plus en plus des énormes engins. Et donc, vous allez tasser une quantité de terre de plus en plus réduite, ce qui est évidemment bon pour les sols. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme système.
Produire des fraises bio, tiens, ça, on en a bien envie, et surtout bonne. C'est le défi que se sont lancés, oui, deux jeunes Français avec une idée un peu dingue, les faire pousser dans des containers en plein Paris. Voyez-vous ça, on vous raconte leur histoire tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Le Salon de l'Agriculture se tient jusqu'au 5 mars à Paris, l'occasion pour nous de découvrir l'agriculture connectée et des initiatives originales pour redonner du goût à nos aliments. Avec nous en studio, le journaliste scientifique Vincent Tardieu et au téléphone, Guillaume Fourdinier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'un des fondateurs d'AgriCool. Votre idée, c'est quoi ?
Alors, en fait, AgriCool, notre objectif, c'est de pouvoir cultiver directement au cœur des villes des fruits et légumes qui soient tout simplement excellents et accessibles à tous, sans pesticides. Puisqu'on est deux fils d'agriculteurs et qu'on trouve que les fruits et légumes qu'on a vécu quand on était petit ne sont pas vraiment ceux qu'on trouve au cœur des villes.
C'est vrai que les fraises étaient assez fades. Vous avez en gros voulu leur rendre leur goût. Vous les produisez où aujourd'hui ?
Alors du coup, ce qu'on fait, c'est que pour être productif directement au cœur des villes, on transforme des containers, donc des containers maritimes, dans lesquels on reproduit en fait un paradis pour les fruits et légumes. Donc le meilleur air, la meilleure température, la meilleure lumière, etc. Et l'objectif, c'est du coup d'être 120 fois plus productif qu'une terre classique, afin de pouvoir produire directement au cœur des villes, justement.
Mais il n'y a pas de terre, vos fraises, elles sont enfermées dans des containers, elles ne voient pas le jour.
Exactement, en fait, on recrée
les conditions
idéales. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément intuitif, et c'est normal. Mais il faut être capable aujourd'hui de trouver justement de nouveaux moyens de produire pour justement soulager un petit peu cette terre qui est très intensifié à la campagne et qui peut justement et pour lesquels il peut y avoir justement des solutions. Donc à l'intérieur du conteneur, on a des LED qui reproduisent le spectre parfait pour la plante, etc. Et ça nous permet en fait tout simplement de produire de manière 120 fois plus productive en utilisant 90% moins d'eau, pas de pesticides, que des énergies renouvelables. Donc au final, enfin une solution qui permet justement de faire avancer les choses.
Pourquoi les fruits qu'on mange souvent dans nos villes ont si peu de goût ? Comment ça s'explique ?
Tout est une question de distance. En fait, on perd 26 mètres carrés de terre agricole par seconde aujourd'hui en France, par exemple. Donc c'est énorme au profit de la ville. Donc aujourd'hui, la distance moyenne entre le champ et l'assiette, c'est 1500 km en Europe. Donc à partir du moment où on a des fruits et légumes qui sont conçus pour voyager et pas pour être mangés ou qui sont cueillis trop tôt, c'est justement pour ça qu'on a perdu tout ce goût et qu'il faut être capable de produire directement en ville pour cueillir le matin et manger directement l'après-midi.
Vous produisez combien de récoltes de fraises par an ? Ça représente
quoi ? Alors on est capable de faire entre 4 et 5 récoltes de fraises par an, ce qui représente 7 tonnes de fraises par an dans un conteneur qui fait 33 mètres carrés.
C'est
l'équivalent de 4000 mètres carrés de center.
On peut les acheter où vos fraises ? Les fraises conteneurs.
Les fraises. Alors déjà, on peut se mettre sur liste d'attente. Il y a 5000 personnes sur liste d'attente. Et on a un premier conteneur qui est à Bercy. Là, on en a trois autres qui vont sortir dans les prochaines semaines. Et c'est vraiment le démarrage. En fait, tout simplement, on a fait vraiment un an de recherche et développement. On est passé de 2 à 34 personnes cette année. Et c'est le début, finalement.
Alors, restez avec nous. J'aimerais bien savoir comment Vincent Tardieu, notre invité, journaliste scientifique qui publie Agriculture connectée, arnaque ou remède, réagit des fraises. Alors, moi, je ne les ai pas goûtées, mais tous les journalistes qui les ont goûtées disent qu'elles sont effectivement très bonnes. Des fraises dans un conteneur en ville. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je suis un peu dubitatif, en fait, sur la démarche. Je comprends ce qui nous indiquait par AgriCool. On a un problème que je partage complètement, c'est effectivement le grignotage des terres agricoles par l'urbanisme. Donc oui, remettons des ceintures vertes autour des villes, c'est indispensable. Je vous rappelle juste que Paris était, la ceinture parisienne au 19e était autosuffisant hein, au niveau agricole. Donc il y a un gros enjeu là-dessus. Simplement, on a vu aujourd'hui aujourd'hui des, on connaît aujourd'hui des techniques, je pense à la permaculture, et il y a des systèmes d'intensification agricole, écologique agricole, qui permettent, sur des surfaces extrêmement réduites, d'avoir des productions de qualité écologique et qui respectent les sols.
Pas forcément dans un conteneur, c'est
non,
ce que vous dites.
Non, pas forcément dans un conteneur. Donc, et on a d'ailleurs des exemples, même à Paris, où, par exemple, sur le toit de l'Institut AgroParisTech en plein Paris, on a des cultures qui sont dans de la terre. Il y a des tas de villes à New York, à Montréal, en Asie du Sud-Est, où il y a des cultures sur les toits dans des sols. On a des systèmes, à mon avis, alternatifs à cela.
Guillaume Fourdinier, un mot de réponse et puis ensuite votre prochain défi, dites-nous.
Nous, tout simplement, on pense qu'on n'est pas là pour remplacer l'agriculture et la permaculture, on trouve ça excellent aussi. On pense qu'il y a vraiment des complémentarités à trouver. Nous, on est capable de produire directement là où il y a du béton. Donc, en fait, tout simplement, de redonner des espaces qui étaient perdus. Donc, je pense que ça va être parfaitement complémentaire.
Et votre prochain défi, c'est quoi, après la fraise?
Eh ben, on va se lancer certainement sur tous ceux qui ont vraiment perdu du goût. Donc, je pense que tout le monde pense la forcément tomate. À la tomate.
Merci.
Donc voilà, merci. On va s'y mettre tout doucement.
Oui.
Merci beaucoup, Guillaume Fourdinier. Je rappelle que votre projet, votre agriculture, nouvelle agriculture, s'appelle AgriCool. Merci à vous.
Agriculture
merci
connectée.
Beaucoup.
Merci. Agriculture connectée, arnaque ou remède. C'est le livre de Vincent Tardieu. C'est publié chez Belin. Il faut le lire pour avoir la réponse. Vous tranchez pas.
Je tranche pas parce que, encore une fois, je ne veux pas fermer le débat avant de l'ouvrir de façon la plus indépendante possible.
Voilà, et c'est donc à lire chez Belin. Merci beaucoup. Bon vent à AgriCool. On aime quand même bien cette idée-là,
ouais,
de redonner
on les goûtera.
Du goût à nos fruits et nos légumes.
On se met sur la liste d'attente, tiens, la curiosité. On sera 500 000 unième.
Vous écoutez RTL.